Bonjour, bienvenue à un autre épisode de Coup Critique. Super Salut. Content de vous recevoir. On essaie quelque chose de nouveau, moi puis Giovanni. Dans le fond, on a décidé de s'enregistrer vidéo. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si on est capable de diffuser la vidéo, c'est que ça a marché puis il n'y a eu aucun problème puis toutes nos affaires ont marché. Sauf que si ça n'a pas bien marché, ben vous allez juste entendre la version audio. Donc,
c'est ça. C'est un premier test. Fait qu'on voit quand ça va. Pire des cas, on a de l'air un peu fou puis on a oublié d'enlever quelque chose de weird dans le background. Là. Je ne sais pas trop. Là. Des fois, les super fans, ils vont regarder ça et vont dire
Mais c'est beau chez vous, Giovanni.
Ben, c'est pas chez nous. C'est dans le sous-sol de mes beaux-parents avec, disons, quand j'étais en intermédiaire de ma maison. Mais je vous promets, quand je vais avoir mon bureau, là, je vais mettre plein d'affaires D&D comme les pros. Là.
Ouais, c'est ça. Tu vas avoir plein de peintures puis de miniatures partout.
Ouais, c'est ça. Je vais négocier ça avec ma femme.
Ouais, moi, je suis dans mon nouveau bureau, là, étant donné qu'on est encore techniquement dans une espèce de crise sanitaire. Quand la crise a commencé, j'ai dit, je pense que j'ai besoin de mettre un peu d'ordre dans mon bureau. Fait que j'ai changé un peu le setup de la dernière fois que vous m'avez vu en vidéo. Mais
effectivement, je l'avais remarqué justement.
Il y a quelques instruments de musique, il y a des choses qui recommencent à sortir des placards.
C'est parfait. Ouais. Moi, ça va peut-être être ma blonde qui va arriver tantôt. Là. Fait que, ça se peut qu'on mette pas le vidéo si jamais mon gars rentre. Ou t'sais. Bon. Mais on essaye, puis on a du plaisir, puis c'est ça qui est important. Puis je pense qu'on parle de D&D, hein, c'est ça?
Oui. D'habitude, on parle de D&D sur ce podcast-là.
Parfait.
Donc, c'est ça. Merci beaucoup d'être sur Coup Critique. Je sais que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait de quoi. Est-ce qu'on a une bonne excuse? On était très occupés, étrangement, malgré ce qui se passe. Moi, en tout cas, j'ai été plus occupé que jamais avec plein de projets. Puis Giovanni aussi, toi, tu étais en plein dans ton mouvement.
Beaucoup d'écriture, beaucoup de parties. J'ai fait vraiment beaucoup de D&D aussi. Ce qui est fantastique, ça me donne du bon contenu à parler puis à dire qu'est-ce qui est arrivé et tout ça. Mais j'avais aussi une petite personne, comme quatre pommes, à m'occuper. Donc, ça faisait des très grosses journées. Donc, j'ai recommencé à travailler puis c'est parfait puis c'est correct. Mais c'est ça. Mais on aime mieux être là pour être là puis avoir du plaisir que le faire pour le faire.
Oui, exactement. Puis, de toute façon, de mon côté, j'ai fait plein de choses intéressantes reliées à D&D que je suis heureux de parler maintenant. Il y a plein de choses nouvelles aussi qu'on va développer pour le Coup Critique en général, le site web, le blog, puis le podcast. Puis je pense que ça a servi quand même qu'on prenne un petit moment pour affûter nos flûtes puis faire des choses comme ça.
Moi, je suis prêt. Je ne sais pas si toi tu l'es, là, mais
moi, je suis prêt. Dans ta barouette. Oui, moi, je suis vraiment prêt. cette semaine, on va parler d'une couple de choses différentes. J'aimerais ça vous parler d'abord d'une expérience que j'ai vécue. J'ai été vraiment privilégié. Vous avez peut-être vu ça passer sur notre page Facebook. Il y a eu un événement qui s'est passé récemment. C'était le Epic Virtuel de la gang de Etu Game. Puis en fait, c'était un événement qui a été quand même très populaire. On a eu encore plus d'engouement qu'on pensait avec l'événement. Pour vous expliquer un peu ce que c'était là, je sais que sur le podcast, on a parlé souvent d'Adventures League puis des Epic. Je me souviens dans le temps avec Eric. Eric nous parlait souvent de son passage puis de comment ça avait été. Mais là, j'ai eu la chance de participer à un Epic, mais virtuel. Donc, ce qu'on a fait, c'est que l'équipe de Epic Montréal, d'Adventures League Montréal, a décidé, avait dans les plans de créer un Epic. Bien sûr, il y a eu la crise que tout le monde connaît. Et ils ont décidé de commencer à travailler sur une manière de rendre ce Epic-là virtuel. C'est joint à ça la gang de Etu Game qui avait le goût de créer un événement à valeur caritative, dans le fond, de ramasser des fonds pour la Fondation des artistes. Donc, peut-être que vous le savez, mais avec la crise actuelle, les salles sont toutes fermées. Les artistes qui veulent se produire ou qui veulent créer des choses, ils n'ont nulle part pour le faire. Donc, ils n'ont pas de revenus qui rentrent non plus. Donc, ce qu'ils essaient de faire, c'est
sortes, là, les chanteurs, les comédiens, le théâtre, les humoristes, tu sais, toutes sortes de.
D'ailleurs, si vous avez des questions sur la fondation, on mettra un lien, puis vous pourrez aller voir c'est quoi qu'ils font la fondation. Puis dans le fond, le groupe des Etu Game, qui sont composés aussi d'acteurs puis de comédiens qu'on peut voir un peu dans plusieurs projets, ils ont décidé de s'allier avec la gang de Adventures League Montréal puis d'essayer de créer un événement virtuel avec une diffusion qui irait rechercher du monde. Puis l'idée, c'est que les profits de tout ce projet-là irait à la fondation. Fait que dans le fond, c'est Pierre-Louis, qui est membre d'Etu Game, qui m'a écrit, puis il m'a dit « Hey Francis, je sais que Coup Critique, tu as un blog, tu as un podcast, mais ça tenterait-tu d'être un DM dans notre événement? » Puis là, j'ai dit « Oui, let's go, ça m'intéresse. » Puis dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a roulé un module de tiers 1 qui a été développé pour les EPIC, mais dans la saison 8. Donc, tout se passait à Waterdeep. C'est un EPIC qui a été très, très populaire, puis c'est une espèce de chasse au trésor où les gens se déplaçaient de table en table virtuelle, où chacun des DM, on avait une quête qu'on a roulée trois fois chaque dans la soirée.
À différentes personnes, dans le fond.
Exactement. J'ai eu trois groupes différents. Ce qui est fun, c'est que le premier, ben, tu te places là, souvent, là, mais rendu deuxième, troisième, là, ça allait au toast, ça, c'était vraiment le fun.
Tu avais le même groupe avec toi, par exemple? Ou...
Non, j'ai eu trois groupes différents.
OK.
Ouais. Fait que, puis l'idée, c'était que les gens se sont connectés à un channel Discord secret pour le EPIC. Ensuite, ils ont formé des tables à travers différentes factions. Donc, il y avait les Antarim, les Emerald Enclave, les Gauntlet, toute ce gang-là. Puis ensuite, ils se faisaient donner des missions. Puis tout le groupe se déplaçait de channel en channel selon la quête qu'ils devaient faire.
Mais c'est ça ma question, je veux dire, est-ce que c'était le même groupe resté ensemble tout le long? C'était pas toi, j'imagine que tu as eu différents groupes.
Oui.
Ouais, le même groupe restait ensemble.
Oui, exactement. C'est un groupe d'aventuriers. Fait que souvent, les gens, ils jouent ensemble, puis ils n'avaient jamais joué ensemble, un peu comme on connaît dans le mode Adventures League, on sait pour découvrir des gens, faire des liens. Puis l'événement a super bien été. Là. Je veux dire, les gens ont beaucoup aimé. Puis le commentaire, c'était quand le prochain. Fait que c'est fun.
C'était sur quelle plateforme, Francis?
Fait que c'était tout sur Discord.
OK.
Donc, ce que ça nous a permis de faire, c'est d'être autour d'une centaine, un peu plus qu'une centaine de joueurs. On était une équipe de, je pense, une quinzaine de DM. Plus, il y avait des vedettes qui avaient été invitées pour faire une gang d'habitués des parties des Two Games qui étaient là pour jouer leur propre version de ce qu'on avait planifié. Puis aussi, les gens pouvaient payer pour être seulement observateurs. Fait qu'il y en avait des observateurs qui se déconnectaient puis qui se connectaient à nos channels pour voir où chaque équipe était rendue.
C'est un à la fois, c'est sûr. Fait qu'au moins, tu pouvais suivre ça. Si tu payais pour entrer, tu pouvais suivre ça comme tu voulais, dans le fond.
Oui, exactement.
Wow.
Ouais. Puis les spectateurs avaient des points d'héroïsme. Donc, ils pouvaient donner des points pour donner avantage à des joueurs.
Sur le moment.
Oui. Puis, comme beaucoup d'épiques, il y a des conséquences, des fois, où il y a des espèces de triggers que les joueurs peuvent gagner à mesure s'ils réussissent une mission ou non, ce qu'on appelle en jargon des boons puis des bane.
Ouais.
Puis j'en ai eu quelques-uns. J'ai eu quelques bains dans mes parties. Puis ça donnait beaucoup de dynamisme, ça donnait un gros suspense. Puis il y avait vraiment des rivalités qui se créaient, mais des rivalités amicales entre les factions puis les tables. Puis ah non, les Antarim, c'est les méchants, on se met contre eux autres. Ah non, les Harpers sont ben trop, on va tous se mettre contre eux autres. Puis finalement, je pense que c'est une faction qui était juste une table qui a gagné.
Ah,
parce qu'ils sont passés sous le radar, puis ils ont super bien joué. Fait que.
Est-ce que c'était ça le but, que celle qui gagnait, c'était celle qui réussissait la mission, puis c'est juste ceux-là qui ont réussi? Ou
Le EPIC, ça marche que ta faction, en fait, devait récolter le plus de points.
OK.
Mais étant donné que, mettons, les Harpers avaient 5 tables pleines, puis que le Gauntlet en avait une, bien, le résultat des Harpers, par exemple, était divisé par 5.
Fait que c'est la moyenne. OK, ouais, je comprends.
Oui, exactement. Fait qu'on avait des points 75, des points 25.
Est-ce que les gens roulaient leurs dés, tout le monde faisait confiance, roulait leurs dés à la maison, des vrais dés?
On avait une plateforme qui s'appelle Roll Dice with Friends. Je l'enverrai, c'est vraiment pratique.
Tu vas la mettre en lien? Cool.
Oui, exactement. Je vais le mettre en lien quelque part. C'est une plateforme vraiment simple. Il n'y a pas de flafla. C'est vraiment cool. Ça sert simplement à rouler des dés selon différents types de systèmes de jeu. C'est comme une fenêtre web. Puis, vous êtes un DM, vous créez une chambre. Okay. Puis là, vous donnez le lien URL aux joueurs. Les joueurs vont rouler les dés. La seule chose que ça ne fait pas, ça n'ajoute pas les modifiers, mettons, puis les bonus, puis les malus sur vos jets, mais
il y a moins de savoir que c'est plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Là,
exactement.
Comme ça. Fait que,
moi, je voyais, mettons, si la personne avait roulé un 3 ou un 20, puis je fais, Fait que si elle me disait qu'elle avait eu 7, parce qu'elle avait un bonus de 5. Ouais. Fait que c'est...
Cool. Puis dans le fond, tu dis que c'est une chasse au trésor. Toi, ta partie que tu renais, c'était que, sans spoiler, parce que d'autres gens la font, mais c'était quoi, mettons, ton étape à toi?
Ben, je ne suis pas sûr que c'est un gros spoiler, étant donné que c'est un épique de la saison 8, puis qu'on est rendu à la saison 9.
C'est sûr.
Les chances pour que ça soit reroulé sont peut-être minces, mais en gros...
On ferme les micros, on entend.
Je ne dirais pas les punchs. En fait, ma mission, c'est qu'il y a un bateau qui était remorqué dans le quai de Waterdeep qui avait le drapeau de la peste noire, et les aventuriers devaient se rendre sur le bateau pour aller chercher le journal du capitaine et un coffret renformant des informations précieuses pour la faction qu'ils avaient envoyée.
OK.
Et rendu sur le bateau, ben, les joueurs avaient des surprises.
Non, c'était pas, il était là sur un piédestal, puis il prenait, il s'en allait. Là.
Ben non, ça arrive. Okay. On joue à D&D quand même.
Ben là, il faut avoir un challenge. Mais c'est-tu beaucoup de préparation pour toi? Ou en tout cas, cette épique-là, tu ferais que tu lis l'histoire 2-3 fois? Ou...
Oui, bien sûr, ben, je voulais être prêt, puis il y avait quand même de la. Étant donné que c'était un événement de charité, je voulais quand même bien performer comme DM, puis je voulais d'en donner. Pour leur argent aux gens qui s'étaient connectés. Mais je dois dire, la plus belle leçon que j'ai eue, en fait, c'est toute une leçon de DM, être dans un épique, dans ce style-là, parce qu'on voulait vraiment respecter le temps de 1 heure maximum pour chacune des missions que les joueurs devaient faire. Donc, pour que ce soit un événement concis en 3 heures, entre 3 et 4 heures avec les intros, puis tout ça. On voulait pas que ça dépasse trop, puis que le monde reste trop longtemps. Puis, il fallait que ça roule. Puis j'ai eu des groupes avec plus qui voulaient faire plus de roleplay, puis d'autres qui voulaient faire plus du combat, puis d'autres qui.
Fait qu'il fallait que tu t'ajustes beaucoup au style du groupe, puis après, l'heure d'après, tu t'ajustes à un autre groupe. Et...
Mais ça m'a forcé d'être plus concis dans mes interventions, d'être plus direct, mais j'essayais vraiment très fortement d'offrir une expérience, le fun, avec de l'humour autant que. Du mystère, puis des intrigues, puis des impasses. Mais tu sais, il fallait. 1 heure, c'est pas beaucoup. 1 heure, ça passe très, très vite.
Je suis très d'accord avec toi qu'on fait des aventures, mettons, Adventures League pour une gang de joueurs, peu importe, dans un bistrot ou quoi que ce soit. Là, c'est une aventure de, quand c'est marqué une aventure de 4 heures, ça dure 5 heures. Puis quand c'est une aventure de 2 heures, ça dure 3 heures. Fait, en même temps, tu ne veux pas brimer les joueurs dans essayer de faire du roleplay. Donc, comme tu dis, c'est une belle apprentissage à ce niveau-là.
Oui, vraiment. L'avantage qu'on avait, c'est qu'il y avait beaucoup de joueurs qui ont utilisé des joueurs, des personnages préfets. Donc, tu sais, qui étaient tous niveau 3. Fait qu'au niveau de... du encounter rate, du niveau de difficulté des aventures, j'ai pas vraiment eu à changer de toutes mes parties. Donc, dans ma préparation, je savais exactement combien de méchants j'allais avoir ou combien de... c'est quoi mes niveaux de difficulté de chaque étape.
Est-ce que tu dirais que la deuxième puis troisième fois que tu l'as fait, même s'il fallait que tu ajustes un nouveau joueur, des nouveaux groupes, pardon, fallait quand même que ça allait mieux, tu la connaissais mieux, puis c'était plus fluide?
Ah oui, vraiment, définitivement. Parce que même à la première. Moi, je me suis compliqué la vie, là. Tu sais, je voulais avoir une map, je voulais avoir du son. Tu sais, je voulais que quand ils se connectent, ils entendent déjà les sons du sport, tu sais, puis que je les amène tout de suite dans quelque chose d'autre. Fait que je me suis compliqué la vie, mais. Fait que ça a été. Ma première game, ça a été vraiment de voir comment j'allais gérer tout ça. Puis, dans le fond, ce que j'ai décidé de faire, c'est que c'est moi qui allais contrôler tout. Puis, dans le fond, il allait juste voir une vue de Roll20, une vue de joueur, dans le fond. Puis que sur un autre écran, j'avais ma version DM. Donc, je pouvais jouer, moi-même déplacer leur token, garder le contrôle. Puis, mais les joueurs étaient très, très, très bons. Ils communiquaient très bien ce qu'ils voulaient faire. J'ai vraiment pas en plainte. Il y avait des habitués comme il y en avait des
plus navires. Puis ça, c'est à s'ajuster en tant que DM, puis en espérant que les joueurs sont acceptants de ça aussi, puis c'est correct. Dirais-tu qu'il y a des DM qu'il n'y avait pas de map, puis c'était juste en Theater of the Mind? Est-ce que, tu sais, dans le fond, chaque DM préparait sa partie comme il le voulait?
Oui, pas mal. Il y avait une grande liberté là-dessus. Okay. Ce que j'ai apprécié. Tu sais, il y en a, et ce qui était le fun dans ce épique-là, c'est qu'il y avait des aventures qui étaient des missions qui étaient carrément du roleplay. Donc, pas de combat, c'était simplement jouer avec le DM, s'amuser, créer une histoire pendant une heure. Il y en a d'autres, c'était plus du combat, puis d'autres, c'était plus de l'exploration. C'était plus comme un puzzle ou un truc comme ça à faire. Fait que les joueurs vont pu jouer à plein de sortes de choses dans la même veille.
Okay. Est-ce qu'il y a un DM qui faisait la même partie que toi? Il y avait-tu juste trois parties pour tout le monde? Oui, OK. Fait que dans le fond, c'était, mettons, qu'il y avait 15 DM, comme tu dis, il y en avait 5 qui faisaient la 1, 5 qui faisaient la 2, puis 5 qui faisaient la 3.
Bien, en fait, non, c'est qu'il y avait un choix d'à peu près une dizaine d'émissions.
OK, quand même.
Mais on a, comme la mienne, les organisateurs étaient conscients que certaines aventures allaient sûrement être plus populaires que d'autres. Et la mienne en était probablement une de celles-là, juste à cause de l'intrigue puis de la prémisse. Ouais. Fait qu'on était deux DM à rouler, c'est la même mission. Puis ce qui est le fun dans l'événement, c'est surtout l'espèce de camaraderie qu'il y a eu entre tous les maîtres de jeu pour s'entraider, s'envoyer des maps que chacun avait fait, s'envoyer des références de son, des trucs. Toi, comment tu vas runner? Ah ouais, je pensais faire ça. Vraiment, c'était vraiment le fun.
C'est la communauté de D&D, hein?
Ouais, moi, je roulais ma partie avec un gars qui s'appelait Patrick. Puis ça a été super cordial comme échange. On s'est envoyé deux, trois affaires, deux, trois conseils. Puis ah ouais, c'est un bon flash, c'est une bonne idée. Chacun de notre bord. Fait qu'on s'est dit, au moins, les gens vont avoir eu si on dit « Ah, j'ai fait la mission Plague Ship », bien, ils ont quand même vécu sensiblement la même affaire.
C'est sûr qu'il faut que tu respectes un peu l'histoire. C'est pas comme faire une aventure, une homebrew, une Adventures League. Pour des joueurs one-shot, comme moi, je vais en jouer une, j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, que ça ne dérangera pas qu'est-ce qui se passe ailleurs, tout ça, puis que c'est toi qui arrives, puis tu peux modifier des choses. Dans ce cas-ci, tu veux qu'à Mané, il y ait une certaine, que l'épique en tant que telle, que les trois étapes qui vont vivre les joueurs se coordonnent, puis que ça fasse du sens, il faut que tu aies un respect pour ça. Tu sais, tu peux pas dire, j'ai changé toutes les monstres, puis c'est pas toute la même thématique. Là. Fait que c'est ton engagement, mais quand même, tu peux amener ton style à toi là, en tant que DM, puis c'est super. Ouais. T'es rendu expérimenté,
en plus. arrête. En tout cas, chapeau à l'organisation, à toute la gang de Etu Games, d'Adventures League Montréal, aussi, il y avait des gens de Roche-Papier-Dragon qui étaient là comme DM, qui ont prêté main forte à toute l'équipe. Puis j'ai particulièrement aimé notre pratique, parce qu'on a fait une pratique avant où les DM, on a joué l'aventure, on a testé comment ça allait se passer dans Discord pour faire des ajustements.
La veille,
on a eu beaucoup
de
plaisir.
Avant?
Une semaine avant.
Ah, OK. Ça permet de tout apprendre à se connaître aussi. Puis ça, c'est vraiment, c'est une belle ambiance, c'est le fun.
C'était cool. Puis on avait juste le goût d'aller prendre un verre après. Là, on était comme, ah mon Dieu, c'était cool. On a vécu quelque chose de fun. Là, puis... Mais ce n'est que partie remise, je crois, parce que l'événement a eu quand même du succès. Puis étant donné les circonstances où ce genre d'événement-là risque de prendre beaucoup de temps avant de pouvoir se repasser en vrai. À cette amplitude-là, je parle, tu sais, une centaine de joueurs qui, dans un même événement. Je pense qu'ils ont trouvé quelque chose, ils ont trouvé un filon qui pourrait permettre d'autres événements de ce genre-là.
Ce serait juste mieux en mieux à chaque événement, en plus de côté fonctionnalité, puis les quantités de joueurs, puis j'imagine qu'il n'y a pas de limite dans leur serveur Discord ou quoi que ce soit. Fait que peut-être qu'à un certain moment, tu peux avoir autant de DM de joueurs que tu veux. Puis...
Il y en a certaines, mais je crois qu'ils avaient bien gaugé jusqu'à où ils pouvaient aller pour que l'événement soit un succès et que ça roule bien quand même. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de problème. Il y a certains DM qui ont eu de la difficulté avec leur connexion puis des choses, mais tout le monde avait une espèce de plan B. Genre, moi, je les aurais amenés sur soit Google Hangouts ou Zoom. Mettons que ça aurait planté, puis j'aurais comme
dit,
connectez-vous
lien,
là, puis voici. Ouais, c'est ça. C'est pas de temps à perdre.
Le but, c'est de vivre. Puis au bout du compte, peu importe chacun de DM ou tout, le but à D&D, c'est d'avoir du plaisir. Fait que il y a 99% des joueurs qui ont eu du plaisir, puis idéalement à 100, c'est un succès total, tu sais, on s'entend.
Ouais. C'est cool. Pour vrai, j'ai vraiment
apprécié.
Ah, c'est bien. Merci, mais félicitations à toute l'équipe derrière ça. Puis j'espère que toi aussi, tu pourrais, une prochaine édition, on pourrait travailler ensemble là-dedans, puis faire connaître ce genre d'événement-là plus, puis surtout que c'était pour une bonne cause. Donc, merci à la gang d'Etu Games d'avoir pensé à moi. Merci à toute l'organisation. Puis je vous conseille d'aller voir la page Facebook du groupe Adventures League de Montréal, parce que ça s'appelle Montréal, mais c'est pour tout le Grand Montréal, mais ça peut être maintenant pour tout le Québec. Dans parce que des gens qui ont commencé à organiser des parties en ligne, comme le groupe de la Triche aussi, qui est de la Ventures League de la Triche, où il y a des parties qui se donnent en ligne. Jean-François qui fait un job excellent, qui est un des joueurs puis DM de la Triche qu'on connaît bien, là, puis qui s'est investi beaucoup à développer des parties en ligne. Donc, merci, JF.
Puis... Écoute, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence puis de s'adapter, que ce soit moi pour mes deux games que je run présentement, toi, quand tu joues, je suis sur un groupe, je fais une parenthèse, Francis, je suis sur un groupe que j'ai trouvé, je pense qu'on est rendu à plusieurs centaines de membres, mais je pense qu'on était 30 quand j'ai joué un groupe. Il y a quelqu'un qui a posté, s'il y en a qui sont intéressés dans un autre groupe de D&D, c'est en anglais, là, je pense que c'est des Américains qui ont parti ça. C'est DM Appreciation Guild, c'est-à-dire que c'est des DM qui vont peut-être faire des one-shots pour des DM qui n'ont jamais la chance de jouer.
Ah, wow.
Je pense qu'ils ont levé la main que je ne joue jamais, j'ai dit, ou presque, puis j'ai dit, écoute, je vais faire partie du groupe, je vais essayer de faire une partie à ma année, c'est sûr, mais au moins je vais suivre, puis c'est une belle fraternité, puis j'ai rarement vu des groupes de DM, des fois des joueurs qui vont poster des affaires dans des groupes qui vont... être un peu plus des publicités, des affaires comme ça, c'est correct. Mais sinon, dans les groupes de DM que je suis, c'est une fraternité incroyable. On s'entraide, tu sais, comme là, je fais Avernus, entre autres, qu'on voit le livre là, je pense que j'étais en train de le lire avant de commencer. Puis,
t'es pas en train de te préparer.
Ben là, je passe ma vie à faire ça. J'ai vu un meme là-dessus aujourd'hui. Là, DM, il a tout préparé son monde, mais il y a quand même 90% de préparation à faire pour sa session. Je trouvais ça fantastique. Fait que c'est ça, je suis dans un groupe comme ça, puis... Il n'y a personne qui va être égoïste avec ce qu'ils ont créé ou ce qu'ils ont eu comme idée. Des fois, je ne sais pas comment handle ce qui est manqué, comment quoi faire avec cette situation-là parce que les joueurs sont allés dans une direction opposée et les gens ils vont te conseiller. Fait que, c'était une parenthèse pour dire que la fraternité est là et c'est le fun d'avoir de l'aide des fois parce qu'en tant que DM, j'appelle ça le syndrome du solitaire. Tu te sens seul au monde un peu des fois parce que tu fais tes affaires de ton bord et tu as des joueurs qui écoutent. Il n'y a personne qui sait qu'est-ce qui va arriver, sauf toi. Donc, d'avoir des gens qui vont pouvoir peut-être t'épauler ou te conseiller ou peut-être te faire ouvrir une lumière, bien, c'est vraiment apprécié.
Oui. Moi, c'est le mot que, après l'épique puis après d'autres parties que j'ai fait en ligne, c'est juste beau de voir à quel point ce jeu-là permet, même malgré les difficultés qu'on vit en ce moment, permet de s'évader, mais surtout de faire des rencontres puis des connexions avec des gens qui ont une passion, tu sais, contagieuse. Tu sais, puis,
ou la même passion que nous, donc de se reconnaître puis de voir que les gens... Pas juste, il y en a que, bon, j'ai des amis que ça leur a fait du bien au point qu'ils étaient en dépression puis ça leur fait vivre d'autres choses. J'ai connu des jeunes aussi que ça les sortait dans un monde imaginaire au lieu de la réalité qui n'est pas nécessairement facile pour eux. Des jeunes qui sont soit malades ou des problèmes mentaux, tout ça... Puis ça les rassemble. Puis de toute façon, au bout du compte, tout le monde fait la même aventure. Peu importe c'est quoi ton origine ou ton problème ou si tu as juste envie de t'évader. Puis c'est tout le même résultat. Donc, tu sais, c'est ça. C'est exactement ça ton point que ça prouve que c'est ce jeu-là fait vraiment du bien et amène quelque chose de spécial.
Ouais, vraiment. Si on passe à un autre sujet, dans l'actualité, donc, en ce moment, le 2 juin, au moment où on se parle, sortait le livre c'est de Theros, dans le fond, le Mythical. Parce que le nom m'échappe. Parce que je fais très professionnel en ce moment, là, mais je sais qu'il y a Theros dedans, puis que c'est en fait un livre un campaign setting pour le monde de Theros qui est inspiré de la mythologie grecque, qui est dans l'univers de
Mythic
Magic the Gathering.
Of Theros, c'est ça.
Exactement. Ça paraît pas que tu as fait des recherches.
J'étais pas prêt, je pensais que tu avais tout ça. Voilà.
Mais bref, moi, j'ai pas eu le temps de le lire. Là. Il est sorti aujourd'hui. Donc, peut-être que dans un prochain épisode, on va essayer d'en parler et de montrer ça, des choses. Mais il y avait ça. Il y a eu l'annonce de D&D Live pour cette année. Donc, étant donné que, ben c'est ça, avant D&D Live, c'était un événement, je pense que ça a toujours été à Seattle. Tu sais, puis, dans le fond, il louait une grosse place, puis là, il te mettait des décors de D&D à grandeur, puis il y avait des parties d'Adventures League, puis il y avait des vedettes qui venaient, puis il y avait les annonces surtout des nouveaux produits. Cette année, ils ont pris un virement complètement virtuel, comme beaucoup de conventions. La différence là-dedans, c'est qu'ils ont décidé de faire carrément tout D&D Live à profit de la fondation qui s'appelle Red Nose Day. aux États-Unis. De ce qu'on voit, c'est que si vous faites un don d'un minimum de 10 US, vous avez un accès privilégié à tout le contenu qui va être créé dans cet événement-là, mais aussi vous allez pouvoir interagir aussi dans certaines parties avec des votes puis des trucs pour comme décider de certains aspects de certaines parties. Donc, ça risque d'être vraiment intéressant. C'est sûr, je ne sais pas pour toi, Giovanni, mais moi, j'ai hâte de voir c'est quoi le fameux nouveau produit, les nouvelles miniatures, c'est quoi les nouvelles...
on en avait parlé même dans le podcast, si je ne me trompe pas, ou juste toi puis moi comme ça en jasant, que... il y aurait des previews ou des Chris Perkins voudrait faire une partie, puis après ça, ça représentait, c'est dans le setting du prochain livre. Tout ça. Donc, côté, c'est pas spoilers, mais gossip, là, les rumeurs, puis tout ça, ben ça va en amener quelques-unes. Ça va être super intéressant de voir qu'est-ce qu'il y en a, en plus d'être très entertaining, là, excusez-moi l'anglicisme, en plus d'être diverti de manière super le fun, ben en plus, c'est quoi qui s'en vient, tu sais? Que je pense que ça va être vraiment intéressant.
Mais comme toujours, ils ont invité une belle brochette d'acteurs puis de gens passionnés de D&D pour jouer en ligne, de chacun chez soi, tu sais, en sécurité.
On vit la même émotion, pareil.
Mais David Harbour, qui joue dans Stranger Things, va jouer là-dedans. Il y a une couple de comédiens. Il y a une gang de la... ouais, c'est vrai. Il y a aussi une gang de lutteurs de la WWE.
Ouais.
On va faire une partie. C'est animé par Jeremy Crawford. Fait que...
Il y a The Big Show. Je ne suis pas un méga fan de lutte, mais The Big Show, il joue dans la partie de Joe
Manganiello.
Donc, lui, c'est ça. Fait que j'imagine qu'il a invité ses amis et tout ça. Parlant de ça, il a fait un concours, Joe Manganiello.
Oui, sur Omaze.
Oui, exactement. Je pense que tu fais une donation de 25 $ et tu as une chance d'aller chez eux, jouer avec lui puis passer du temps avec puis d'aller à Wizards of the Coast, quelque chose comme ça.
Ouais.
Je trouve ça super intéressant. Puis pour une fondation aussi, là, fait que vraiment, là, c'est... il y a beaucoup de belles initiatives comme ça qui se passent. Ça met pas nécessairement du baume sur les plaies, là, mais ça amène un engouement pour D&D tout en le faisant pour des bonnes raisons.
Oui, vraiment. Puis c'est ça. Ça va être un événement majeur, comme d'habitude, où il y aura beaucoup de spéculation, beaucoup de monde déçu, beaucoup de monde content. Hein, c'est sûr. Mais je ne sais pas, toi, as-tu un pressentiment? Parce que de ce que tu parlais la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est que Chris Perkins allait faire une partie du Essential Skit avec un nouveau cast, dont Micah Burton, qui a joué récemment dans Critical Role, un excellent rôle de Rainey, qui a eu beaucoup de popularité suite à cette intervention-là dans cette gang-là. Puis son personnage est vraiment attachant, puis c'est beau. Puis j'ai hâte de voir ça va être quoi son type de personnages dans la partie, mais il faisait partie de cette chose script et il voulait comme ouvrir après vers
le nouveau setting. Oui, exactement. Ouais. Donc, mais tu sais, Chris Perkins, il est spécial. Moi, je l'aime bien. Il est inspirant, mais il est... je ne veux pas employer un mot là, qui va être insultant comme ça, mais c'est vraiment du bon côté. Il est « twisted » un peu. Pour avoir écouté son... avant la sortie d'Avernus, « The Descent into Avernus », pour vrai, il est sans pitié. C'est un DM qui n'a pas de pitié. Tout le monde, je pense qu'il a fait un rouleur des vins. On avait dit, je pensais qu'il a fait un rouleur des vins à tout le monde, puis c'est ça le nombre de points de vie qu'il avait. Ils sont tous empalés déjà. Écoute, il y a un mindset un peu spécial, mais je trouve que ça amène un côté que tu peux aller chercher, t'inspirer de ça. Pas obligé d'être comme lui, là, c'est pas ça que je dis, mais au moins d'aller voir. C'est correct aussi d'être le méchant des fois, puis tu peux pas juste donner des cadeaux, puis ça. Donc,
c'est son branding, on s'entend.
C'est son branding, exact.
Tu embarques dans une game comme ça. Tu sais, il faisait ça aussi avec la game d'Acquisition Incorporated, puis il a fait ça avec une foule de vedettes, à chaque fois qu'il faisait des événements caritatifs. Ouais. Là, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi un peu. C'est nous, comme DM, on fait comme « Hey, nice shot! »
Je sais pas si je serais game de jouer ces parties, par exemple. Mais tout ça pour dire que c'est bien excitant de voir c'est quoi les prochaines choses à venir. Bon, il sortait quoi? J'ai pas fait de calcul, mais peut-être 2 livres par année. Est-ce qu'il va y avoir du nouveau contenu ou une nouvelle campagne? Ça sera ce que ce sera. De toute façon, avec le temps qu'on a et le nombre de parties qu'on a, que ça prenne un an ou deux là, avant qu'ils sortent d'autres choses, ça ne me dérange pas. Justement, moi, une fois que je vais avoir fini mes campagnes actuelles, je vais prendre une année sabbatique de DM. J'espère qu'un de mes joueurs ou quelqu'un que je connais va faire une partie que je vais pouvoir jouer, mais je dois me mettre à écrire. Puis je veux également faire une... Ouais, ça va me faire plaisir. Je veux également me faire mon monde à moi, créer mon monde, une map, du lore. Je veux prendre le temps de faire ça à tête reposée, pas quand j'ai... Ah, fallait que je fasse... Je marque des notes, là. J'ai déjà des notes en masse, mais il faut que je prépare la session aussi, tu sais.
Ouais.
C'est pas le même mindset. Fait que je veux m'en mettre là-dessus parce que j'adore faire ça. Fait que ça, ce sera... Je veux pas dire dans combien de temps parce qu'on sait jamais combien de temps peut durer mes campagnes, mais... Vraiment, j'ai hâte de faire ça.
Cool.
Parlant de ça.
Ouais. De cartes.
De cartes, de maps, de création de monde de manière ouais. physique. Tu m'as parlé de Incarnate. Qui ouais. Parle-moi-en parce que moi, c'est ce qui m'attirait, mais je n'ai pas été voir là, de quoi ça avait l'air ou quoi que ce soit.
OK. Ben, Incarnate, c'est une plateforme web. Dans le fond, c'est web-based. Ça se passe directement dans ton furteur de okay. web. Puis c'est un engin, en fait, qui permet de faire des cartes. La particularité de Incarnate, je crois, c'est son design. C'est ce qu'il offre en termes de qualité de map que tu peux faire. Okay. Y a un abonnement payant qui n'est pas si cher que ça. Je pense que c'est comme une vingtaine de dollars par année, là, quelque chose comme ça.
Okay, puis, okay.
Mais même la version gratuite est assez intéressante où on peut facilement créer des mondes, des cartes régionales. Mais c'est plus des cartes, par exemple, régionales ou de mondes à large. T'sais. On pourrait faire genre une grande cité, une ville ou un village, mais tu sais, c'est pas un outil qui est fait pour faire, par exemple, le dedans d'une maison ou un donjon ou ce genre d'affaires.
Je comprends, à plus grande échelle. Là.
C'est plus pour jouer avec la cartographie, détailler, par exemple, une province ou carrément un continent de votre campagne, y ajouter des routes, des villes, des trucs comme ça. Puis ça a une signature quand même assez intéressante au niveau visuel. Y a plusieurs formats, plusieurs sortes de formats qu'on peut utiliser pour sortir la carte de différentes façons, comme un sépia, genre comme une vieille carte abîmée, autant qu'il y a une couleur très vive en couleur. On peut mettre des couleurs par province, par région.
Sûrement certaines sont barrées en fonction de si tu es payé ou non. Là, c'était des petits contenus.
Ouais, c'est pas mal. Ça fonctionne. Mais je pense que c'est intéressant. T'sais. Je pense que c'est plus aussi au niveau de ce que tu peux exporter comme qualité de carte ensuite que d'avoir des fonctions privilèges te permet d'accéder à des choses qui ont, par exemple, plus grandes. Donc, si tu voudrais imprimer une grosse map, t'sais, dans super bonne qualité, là, t'sais, ben, il pourrait te fournir un format 4K, t'sais, mais okay. c'est pas accessible pour les versions gratuites.
Okay, je comprends. Puis toi, tu as commencé à travailler dessus déjà? Oui.
Ouais. Ben, je suis en train de travailler sur une homebrew. Moi aussi, j'ai décidé de l'idée m'est venue du lazy. Là, pour ceux qui écoutent le podcast, ça fait deux fois qu'on lève la main.
Puis, ah, ben là, ça va forcément attendre d'aller voir la vidéo si on l'a.
Ben, ouais.
Comme ça, vous allez voir un peu les interactions, puis c'est bien correct. Ça sera bon. Ça sera pour ceux qui vont voir les vidéos.
Ben oui, mais j'ai décidé d'appliquer un peu la méthode du lazy DM de Sly Flourish. Peut-être qu'il y a des. Certaines personnes connaissent ça. C'est un DM qui crée énormément de contenu, des guides de modules condensés, quoi voir, quoi penser, des méthodes de travail de DM pour alléger le fardeau de préparation, mais tout en mettant à profit notre sens d'improvisation, okay. de garder le fil conducteur, mais de cesser beaucoup de liberté pour agir rapidement. Donc, il y a vraiment plein de trucs, plein de choses. Puis, dans cette optique-là, où j'ai différé de lui, c'est que j'ai décidé de juste me faire une province. J'ai décidé de travailler une carte d'une région, d'un continent, de mon monde que j'aimerais faire. Donc, j'ai jeté une capitale, des villages, des terrains différents, des forêts, des trucs. Puis juste avec ça, j'ai réussi à avoir un contenu vraiment intéressant qui me permettrait
de... commence à plus petite échelle, si on veut.
Ouais.
Question que ça ne soit pas trop lourd de faire tout le monde. Puis après ça, tu pourras l'agrandir de la même map.
Ouais, ben oui, puis il y a moyen de aussi... mais ce que je trouve intéressant de travailler de cette manière-là, c'est que si je veux faire à un moment donné regrouper mes provinces, ben j'en ferai une grosse map. T'sais. Là, ce que je trouvais le fun, c'est de partir à petite échelle, de faire une province, de juste faire comme... Ben, si mes aventuriers viennent, mettons, de cette village-là, ben c'est normal parce que peut-être à une ou deux journées de marche, ben il y a une autre ville, puis il devrait être au courant que ça existe. C'était juste me donner une idée de
totalement
d'un échantillon de ce que mes joueurs pourraient connaître, dépendant de où ils partent. Donc, je travaille avec ça, mais tu sais, c'est sûr que c'est vraiment pour le côté géographique de la chose d'un homebrew. Tu sais, ça vous créera pas un panthéon, puis des classes, puis des races.
Non, non, non.
C'est vraiment un outil pour faire des cartes.
Puis il y a des ressources book aussi, des livres de ressources pour ça. Là. De toute façon, tu n'as pas besoin de tout le temps créer un Panthéon nouveau puis tout ça.
Oui, c'est ça.
Question pour toi.
Oui.
Moi, je ne suis pas un dessinateur hors pair. Au contraire, je suis bonhomme allumette, c'est 1 sur 10. Là, faut-tu être super talentueux en dessin ou les outils sont là dans Incarnate pour OK, il faut que tu choisisses la chaîne de montagne que tu veux, puis là, tu fais juste l'étendre puis tu amènes même ou juste peux-tu m'expliquer un peu si, à quel point c'est user-friendly? Tu
as besoin de zéro skill en dessin.
Yes.
Ce qui est vraiment intéressant d'Incarnate, c'est que d'abord, il y a moyen de générer un monde, si on veut, à partir de combien d'eau tu veux dans ta map. Tu sais, genre, tu mets, ben moi, je veux, mettons, qu'il y ait 60% d'eau qui compose ma map, puis il va générer une espèce de terrain. Il n'y a rien dessus, c'est juste comme le terrain. Puis ensuite, pour le colorer, ben tu utilises des textures, donc tu fais juste barbouiller par-dessus le monde, puis là, tu ah, c'est vert, ah, c'est rose, ah, c'est rouge. Puis ensuite, ben tout marche avec des... C'est comme si tu mettais des autocollants, donc tu mets une montagne. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que si, par exemple, tu sélectionnes un style de montagne, bien, si tu cliques une fois, la prochaine fois que tu cliques, c'est une variation sur le même thème de montagne.
Donc, ça fit à côté, c'est ça que tu veux dire, mais
ça a l'air organique.
Copier-coller, là. Wow,
exactement, ouais. Ça va avoir l'air organique, puis ça va comme placer ça. Même chose pour les arbres, pour des buildings, pour des temples, des ruines, des stalactites. Il y a vraiment de.
C'est user friendly la façon que tu parles. Là.
Vraiment.
Après ça, tu t'essayes, tu peux effacer. OK, j'aime pas ça. Tu sais, tu peux travailler dessus, puis ça doit être même le fun, comme tu dis. Là,
ouais.
Travailler, puis voir un peu comment tu l'imagines.
Oui. Puis moi, ce que j'ai trouvé le fun après, c'est si vous connaissez des plateformes comme World Anvil, qui servent beaucoup aux gens, aux DM, à concevoir des univers, là, carrément. Là. C'est un service qui permet de répertorier un peu tout ce que vous faites dans une campagne. Ben, après, vous prenez votre map, vous la mettez dans World Anvil, vous pouvez faire des pinpoints sur chacun de vos endroits que vous venez de créer, écrire une histoire pour la ville. C'est qui reste là, c'est quoi qui fait. Puis, moi, j'ai découvert plein de générateurs aussi de stats, là, genre de je veux générer une capitale. OK, ben il y aurait, mettons, 50% d'humains, 35% d'elfes. Tu sais, genre des noms, des choses, il y a plein. C'est fun parce que il y a plein d'outils, puis Incarnate, c'est juste un de ceux-là, mais ça, je vous conseille d'aller le voir juste pour voir la plateforme, ça, puis vous nous direz en commentaire comment vous avez aimé ça. C'est,
il y en a pour qui ça va être moins ce qu'ils pensaient, puis peut-être moins un bon mindset. Il y a sûrement des programmes aussi pour créer des maps, que c'est vraiment plus à la main, puis que quelqu'un, tu sais, donc la façon que tu parles, je pense que ça me fit bien avec moi, qui n'a aucun talent de dessin, puis tout ça. Mais tant mieux, s'il y a plusieurs outils, de toute façon, ça fait juste que tout le monde peut trouver son compte. Là.
Ouais, puis je te conseille, Giovanni, tu vas triper. Puis je conseille à tout le monde de l'essayer. Ça peut vraiment dépanner, même pour faire juste une ville. Puis il y a moyen de faire une ville vraiment détaillée avec comme de la grosseur de Waterdeep, là, avec plein de quartiers. Puis de, c'est vraiment cool.
J'ai hâte d'aller voir ça. Tu me donnes
vraiment
envie de le faire en avant.
je vais placer un petit mot pour notre ami Yann de la Triche. En fait, Yann nous permet d'avoir souvent accès à du matériel pour pouvoir en parler sur le site de Coup Critique. La Triche a été affectée comme tout le monde avec la crise sanitaire. La bonne nouvelle, par exemple, c'est que la Triche est réouverte à une certaine capacité. Dans le fond, ce qui se passe avec la Triche, c'est que tout le côté boutique pour acheter des jeux nouveaux, des jeux de société, est ouvert. Et également, ils ont développé une nouvelle plateforme en ligne, latriche.com, je crois. Puis, de toute façon, je vais mettre le lien dans les commentaires, ben, dans la description de ce qu'on fait en ce moment. Là. Mais il y a une manière de faire des commandes spéciales, de commander en ligne aussi maintenant avec la Triche. Ils nous donnent une fière chandelle pour pouvoir avoir accès à tout ce matériel-là pour qu'on puisse en parler et vous faire du beau contenu. Surtout, c'est une belle gang. Moi, personnellement, c'est des gars comme Yann qui permettent à des joueurs comme moi et Giovanni de se rencontrer puis ensuite de créer des plateformes comme Coup Critique. C'est parce que la Triche existait qu'on s'est rencontrés. Puis,
exact. Puis on peut louer des jeux aussi. Je me rappelle que dans son vidéo, là, il avait parlé qu'on pouvait aller louer des jeux. Donc, ça peut être le fun aussi quand on veut juste essayer des jeux comme on faisait à la Triche. Là, on ne peut pas le faire à la Triche, on va chez nous. Mais au moins, on n'est pas obligé de payer le jeu au complet si jamais on veut être sûr. Puis après ça, tu l'achètes si tu l'aimes. C'est super intéressant à ce niveau-là.
Oui, vraiment. Puis donc, allez voir le site de La Triche, la page Facebook de La Triche aussi. Il y a plein d'informations sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui est en vigueur en ce moment. Puis si vous êtes prêt de La Triche, on sait qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont de notre région de la Rive-Nord. Yann fait encore des bubble tea. Ouais. Vous pouvez aller prendre un bubble tea, jaser avec l'équipe là-bas qui sont toujours super sympathiques. Ils respectent toutes les mesures de sécurité puis qui sont en vigueur. Mais c'est une belle occasion d'encourager local, de permettre à ce magasin-là, puis, qui est devenu un lieu communautaire pour beaucoup de gens, de s'épanouir. Yann en a profité aussi pour faire des rénovations. Ouais. Donc, quand ça va réouvrir, ça va réouvrir en force avec encore plus de choses.
On fera une journée D&D aussi.
Ben voyons, ça n'arrivera jamais, hein? On va te monopoliser ça, cette place-là.
Juste une journée, là.
Ah, une journée, une semaine, un mois. Hein?
Jamais assez. Okay, lâche pas, Yann, on est avec toi, puis on avait hâte d'aller te revoir là, pour, oui, jouer à D&D là-bas, mais aussi pour prendre la bubble tea ou acheter un jeu, c'est sûr. Aller faire votre tour là-bas, vous allez voir. Il est bien accueillant, Yann, ça, c'est sûr.
Ouais. On y va-t-il avec notre segment? Là, ça fait à peu près... ça fait un beau 42 minutes qu'on jase ensemble. J'en venais à une super bonne idée. On va instaurer un segment dans notre podcast qui s'appelle le moment D&D. Puis là, on va travailler sur une espèce d'infographie malade, là, tu sais, avec la voix radiophonique de Giovanni. Là. On va mettre ça. Ou on va simplement, un peu comme ce qu'on faisait en début d'émission, parler d'un truc qu'on a vécu en rapport avec Donjons Dragons.
En tant que DM ou en tant que joueur. Ou
Game Master aussi.
C'est sûr que tout le monde a déjà roulé un vin naturel. C'était super épique, tout ça. Mais je pense que ça peut inspirer aussi quoi faire dans telle situation, comment le DM a réagi. Ou tout ça. C'est quelque chose d'épique. Ça peut être un fail total ou une chose qui est arrivée qui était négative, mais qui a fait quelque chose de fantastique. Ou juste... un moment qu'un joueur a eu une idée, puis c'était juste formidable, puis ça a donné telle chose. Puis,
commence donc, Giovanni, le raconte-moi. Oui,
c'est
ça, sûr.
Moi, c'est assez simple. Je ne l'aimerais pas, mais dans ma partie Homebrew, donc pas dans ma game d'Avernus, mais dans l'autre, il y a eu une certaine clérique qui a fait un Divine Intervention. Intervention divine, dans le fond, en français. Selon ton niveau, tu as ça au niveau 10 quand tu es un cléric ou un prêtre. Tu roules un dessin, puis il faut que tu roules en dessous de ton niveau ou égal. Donc, on est rendu au niveau 12, elle a roulé un 6. Si tu roules en haut de ça, tu ne peux pas l'utiliser pendant 24 heures. Puis c'est ça. Si tu le roules en bas de ça, tu ne peux pas l'utiliser pendant 7 jours. Fait que tu l'utilises pour la semaine. Une semaine, c'est 10 jours. Là, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que tu demandes à ton dieu ou ta déesse d'intervenir dans ce qui se passe. Mais... charmants joueurs, ils ont un château qu'ils ont reçu en cadeau suite à l'avoir libéré d'un gros vampire, blablabla. Dans ce château-là, il y a une tour bien spéciale où est-ce qu'il n'y avait pas accès. Il y avait un sort de protection sur la porte, il n'y avait pas accès. Ils ont passé des heures de jeu, donc des heures in-game, mais autant entre nous à essayer de trouver une façon. C'était drôle, moi je m'amusais carrément avec eux, sachant qu'il n'y avait pas les ressources pour faire ça. Ils sont allés faire une certaine aventure, sont revenus à leur château, puis là, ils commencent à être curieux. Ils avaient peut-être des nouvelles ressources, des nouvelles idées. Ils ont essayé plein de trucs, ça ne marchait pas. Même la cléric essayait d'enlever le sort de protection, puis elle n'avait pas un sort assez haut. Puis ça, je le savais. Fait que je me suis dit, tu sais, ils n'iront pas là tout ça. Jusqu'au temps qu'elle revienne, puis qu'elle a l'idée de « Hey, je vais demander à ma déesse si elle était capable d'enlever ça. » Puis, en gros, je ne m'attendais pas à ce qu'elle réussisse. On s'entend, elle était au niveau 12. Fait que 12% de chance de l'avoir. Elle a roulé un 6, donc elle l'a eu. Donc, disons que ça a rajouté une session de plus là, à préparer pour la semaine d'après quand elle a réussi à ouvrir la porte avec sa déesse.
Ouais.
Dans ces moments-là, j'essaie de créer... c'est pas arrivé souvent que j'ai eu des clérics qui ont réussi leur intervention divine, mais j'ai fait quelque chose de vraiment le plus épique possible pour dire à quel point c'est puissant.
OK. La question, c'est... Est-ce que tu avais prévu déjà ce qu'elle allait avoir dans la tour quand elle a débarré ou tu t'es dit... je vais mettre ça là, j'ai le temps de passer à quelque chose. Puis quand il y a des barreaux, ça sera ça. Tu sais, mais...
J'avais une bonne idée de qu'est-ce qu'il en était. Surtout que dans leur château, ils avaient trouvé des livres qui parlaient un peu de ça. Mais c'était une tour bien mystérieuse que depuis des centaines d'années, ça n'avait pas été ouvert et tout. Disons que ce deux semaines-là, entre mes parties, si on joue aux deux semaines, puis la session au moins elle achevait, ils n'ont pas fait ça en ouvrant la session, puis wow, j'avais improvisé, puis c'est correct, mais j'ai pu faire quelque chose de vraiment intéressant avec ça à partir du lore, de l'information qu'il y avait, puis qu'est-ce qu'il y en était. J'en dirai pas plus parce que là, ils ont pas creusé en entier. Ils ont dit cool, on a ouvert, ils sont bien fiers de la. Hein? Oui, peut-être, sûrement même. Donc, ils ont décidé de ne pas creuser trop, mais ils sont contents d'avoir ouvert. Ils ont eu quelques informations supplémentaires, mais là, ils sont partis vers autre chose parce que leur temps est un peu compté. Mais sinon, je vous dirais que non, je ne m'attendais pas à ce que ça réussisse ou qu'elle pense à faire ça de toute façon. C'était quelque chose de vraiment surprenant, puis que j'étais bien fier de la clérique qui a fait ça parce que c'est une idée qu'elle a eue. En plus, qu'elle a bien roulé. Là. Donc, vraiment, là, une intervention divine, ça peut amener une histoire dans une direction ou dans l'autre. Puis, j'ai dû rajouter une session. Tu sais, il s'en allait, mettons, au plan C après. Mais là, ça a marché. Fait que là, j'ai rajouté un B2. donc, beaucoup d'écriture cette semaine-là. Puis, mais j'ai trouvé ça fantastique. C'était bien correct. Mais non, je ne m'en attendais pas parce que dans mon planning, il n'y avait pas assez les sorts assez forts pour pouvoir enlever ce qui bloquait la porte. T'sais. Donc, okay. Vraiment, là, chapeau à la clérique qui n'écoute pas le podcast, mais que chapeau à elle pour ceux qui la reconnaissent. C'était vraiment quelque chose de... Un moment D&D intéressant.
Ben oui. C'est fun parce qu'on voit aussi à quel point tu avais le souci que ça soit intéressant au bout du compte, c'est pour tes joueurs en général. T'sais, même si ça s'est passé peut-être plus vite ou ça s'est passé genre... T'sais, ça fait partie de la game aussi d'être un DM.
Mais, absolument. Mais
c'est le fun de voir que tu as pris du temps pour l'écrire. Tu as décidé de faire vraiment quelque chose qui en valait la peine parce qu'au nombre de temps qu'ils ont passé à checker.
Exact. Mais tu sais, je les bloque jamais de faire quoi que ce soit. Je leur dis j'invente une raison pour pas qu'elle. Jamais. Là, moi, il y a beaucoup de choses qui sont écrites bien en avance. Puis s'ils s'en vont voir tel monstre au début, ben il va peut-être être trop fort pour eux. Mais s'il arrive là plus tard, il va être trop faible. Tu sais, ça, c'est correct. C'est un sandbox qu'on appelle. Ils vont n'importe où, comme ils veulent. J'essaie de leur mettre le plus de la malléabilité possible de qu'est-ce qu'ils vont faire comme choix. Mais ça fait longtemps que c'était à ce niveau-là. Quand il y avait été là, plusieurs sessions d'avant, ils n'étaient pas encore assez capables d'ouvrir. Sauf que là, les dés ont décidé comme ça, ou plutôt, j'aurais dit, sa déesse a décidé de l'aider et puis d'intervenir dans la situation. C'était fantastique. Ils ont beaucoup aimé la session qu'on a faite à l'intérieur de ce tour-là, si on veut. J'aurais peut-être l'occasion d'en reparler. Si vous êtes curieux, vous demandez la question, c'est quoi qu'il y a dans la tour, tout ça, ça me fera plaisir de le dire. Là, pour l'instant, ils n'ont pas tous les secrets encore. Mais j'avais quelques surprises pour eux, puis un peu des récompenses. Pas nécessairement, des objets, c'est une chose, mais je veux dire, ils ont été récompensés d'avoir eu cette idée-là et de faire ça parce que je suis comme ça. Là. Quand il y a des bonnes idées et des choses qui sont, que ce soit des idées ou non, je pense que c'est le fun pour les joueurs de dire on a reçu un grand coup. J'espère que c'est pas pour rien. D'un sens, ça, ah, des fois, il y a des cul-de-sac, ça c'est normal, mais ils ont bien aimé ça. Puis, encore une fois, chapeau à la clérique d'avoir pensé de faire ça parce que des fois, on a beaucoup de sorts, hein, on a beaucoup d'affaires à faire puis on pense
comme clérique, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses.
L'essai valait la peine, sauf que là, peu importe ce qui arrive pendant 7 jours, elle ne peut plus demander d'aide de sa DS à ce niveau-là.
Ouais. De mon côté, c'est sûr que c'est passé tellement de choses. J'ai commencé une campagne dans l'univers de Critical Role comme joueur dans Wildemount. Wow. Un petit coucou à Benoît puis à tous mes amis joueurs qui jouent dans cette partie-là. J'aime beaucoup mon personnage. J'aime où ça s'en va. Il est juste niveau 2, mais déjà, genre, je vois où il peut aller. Puis j'essaie d'être... C'est une game que je veux définitivement plus roleplay de ma part, où je veux vraiment plus développer un personnage.
Comment il s'appelle?
Il s'appelle Enwin Yaldrin. Et c'est un...
Ça doit être un elfe ou quelque chose?
Ben, c'est un elfe, mais c'est un Eladrin elfe.
OK.
Druid Circle of the Dreams.
Ah! Donc, bien l'imaginaire, bien le...
Ben, c'est très Feywild. Ouais. Fait que Eladrin vient du Feywild, j'ai dit, ben, prenons un cercle qui fait vraiment Feywild, un truc que j'ai jamais joué. Et je voulais pas y aller pour juste les Wild Shapes, puis genre...
C'était pas ça que tu visualisais, là.
Non, je. Puis étant donné qu'on n'a pas de cléric, ça fit parce que c'est un druide que sa spécialité, c'est beaucoup le healing, puis les sorts de soins, puis les trucs. Ouais. Fait que je trouve ça intéressant. Mais le moment que j'aimerais vraiment parler, c'est que j'ai fait un petit clin d'œil là-dessus sur Facebook, comme quoi mon gars, j'ai commencé à faire jouer mon gars à Donjons Dragon. La chronologie des événements, c'est j'ai reçu une copie de Hero Kids que j'ai parlé dans une vidéo. Et mon gars a vraiment trippé là-dessus. Il y avait 4-5 aventures de Hero Kids qui étaient traduites en français, que j'ai testé avec lui. Il aimait ça. Mais à la fin, je sentais qu'il était peut-être prêt à d'autres choses. Je pense qu'on aurait pu rester dans le même système de jeu. Le système de jeu est vraiment bon. Mais je n'avais pas vraiment d'aventure sous la main pour le continuer à faire jouer. Puis j'ai regardé un peu ce que les gens faisaient sur YouTube pour jouer avec des enfants, comme des vidéos comme « How to initiate your kids to D&D » puis « How to play D&D with 5 years old ».
Ça ne va pas être trop dur à trouver, là, exactement.
Oui, il y avait beaucoup de trucs intéressants. Puis ce que j'ai décidé de faire, c'est que je roule « Lost Mines of Endeavor » que j'ai roulé souvent.
Ouais.
Fait que je sais où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire, mais surtout comment le vulgariser puis le mettre à la saveur enfant. Tu sais, comment baisser le ton un petit peu de certaines des choses qui se passent pour un enfant de 5 ans. Puis, il me surprend à chaque fois qu'on joue. Ça doit faire 3 fois qu'on joue à l'aventure. Puis, j'ai créé des choses à travers ça, mais j'ai gardé l'essentiel de l'histoire pas mal sans changer grand-chose. Puis, j'adore ça, jouer avec mon gars parce que c'est mon gars, mais j'ai découvert comment un enfant, ça peut être intéressant de jouer avec des enfants parce que, tu sais comme moi, les vieux de la vieille, des gobelins, là, on fonce dans le tas, on claire ça, tu sais, puis on le sait que c'est des méchants. Mais mon gars, il ne sait pas ça, que des gobelins,
c'est ça, des méchants. C'est ce stéréotype-là, si on veut, là, ouais.
Il ne sait pas. Puis même, tu sais, même si tu n'as jamais joué à D&D, si je te dis gobelin, tu penses à Lord of the Rings, tu penses à plein d'affaires où les gobelins, c'est des méchants. Les orques, c'est des méchants. Tu sais, mais mon fils n'a pas vu ça. Puis je le décris. C'est un petit bonhomme, des ailes pointues, il a une face bizarre. Puis il fait comme, OK. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'y demande où ils sont, telle affaire. Puis là, OK. Puis là, je dis, il te répond quelque chose. Puis là, je trouve un truc comme. Tu vois qu'il a l'air fatigué ou qu'il a l'air d'avoir faim ou qu'il n'est pas concentré. Et puis, bon, j'ai un petit gars très empathique dans la vie. Fait que souvent, il me va dire, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? As-tu faim? Moi, je suis bon.
J'ai littéralement dit ça.
Ouais, je suis très bon cuisinier. Est-ce que tu veux que je te fasse à manger? Puis, je joue là-dedans. Puis, j'ai fait rouler seulement le D20. Un D20, d'ailleurs, Sam Craft, j'en ai parlé sur Facebook. Ouais. Créateur québécois qui fait des vins puis d'autres affaires en mousse, en stress ball. Ouais, c'est vraiment cool.
Ça fait avec ta casquette en plus, fait que c'est parfait.
Ben oui, je suis d'accord, ça n'a pas de bon sens. Mais je le fais jouer avec le D20 puis ça y apprend, j'y apprends des petites mathématiques. Tu sais, genre 14, OK, plus 1. C'est compté jusqu'à 20, Félix. 14, 15, OK, bon, t'as eu. Tu sais, il y a moi. Puis ça le fait dégourdir, surtout en ce moment, là, tu sais, où il y avait, dans son cas, la pré-maternelle a été arrêtée abruptement, ouais. Des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça lui permet de travailler son imaginaire, puis sa résolution de problème. J'y mets des pièges, puis, tu sais, des trucs comme ça.
Il est attentif, il est comme ça, puis il attend que tu dises qu'est-ce qui va se passer.
Ah, mais tu me connais, tu sais, je suis très dans les voix, je suis très dans les personnages.
Ouais, ouais,
puis il me connaît aussi, c'est mon gars. Fait que c'est ça que quand je raconte une histoire, j'en mets un peu plus que qui en demande. Là. Mais l'autre jour, j'ai demandé, Félix, t'aimes-tu ça quand papa fait des voix? T'sais, est-ce que ça te fait peur? Ou est-ce que t'es... Il dit non, j'aime ça, papa, continue. Donc, non, mais
juste pour confirmer, là, je peux-tu continuer?
Ouais, c'est ça, ouais. Mais ce que j'ai aimé, c'est sa résolution de problème qui est complètement différente. T'sais, il amène l'aventure dans des endroits qu'il me surprend.
T'sais, surtout en tant que DM, tu penses que tu vas tu sais, à un moment donné, tu connais ton groupe, oui, mais OK, je vais essayer de couvrir le plus d'angles possible, tu sais, pour au moins être un peu plus prêt, ouais. Si, même s'il faut que je fasse de l'improvisation. Puis là, tu dis que même lui, qu'on pense qu'un enfant, tu sais, ça va être plus simpliste, tout ça, il réussit à te surprendre pareil. Fait que c'est
ouais. C'est ce que j'ai fait pour les gens que ça intéresse, dans le fond, c'est que j'ai carrément expliqué à mon gars, je me base surtout sur les scores d'habilité.
Okay.
Puis dans le fond, ce que je lui ai demandé, c'est de choisir deux choses dans lesquelles son personnage était très bon, puis une chose dans laquelle il y a un peu plus de difficulté.
Avec fait les six statistiques de D&D?
Ouais. Okay. Ouais. Puis il a décidé de se faire un Gnome Ranger parce qu'il dit « je veux être petit ». On dirait qu'il était encore...
Il veut logique rentrer dans la peau de son personnage. Ouais,
ouais. Ouais. Qu'il était petit, puis il est Beastmaster, il y a un loup comme compagnon. Puis,
cool.
Puis ce qui est fun, c'est que j'ai montré, ça y montre aussi, tu peux pas tout le temps être bon dans tout. T'sais, des fois, il y a des choses qui arrivent que c'est hors de ton contrôle.
Comment travailler juste, ces faiblesses-là aussi.
C'est ça, mais comment trouver des solutions à travers ça. Puis c'est ça, je fais juste rouler un D20, je prends les scores d'habilité. Puis quand j'y fais monter de niveau, parce que lui, ça l'intriguait bien gros quand je disais que mon personnage avait monté de niveau. Fait que je le fais monter de niveau, puis là, je dis... Mais là, ton personnage a un nouveau sort. Il a une nouvelle habilité. Il est capable de parler avec les animaux maintenant. Tu sais, je traque pas le nombre de sorts qu'il fait. Il les utilise probablement autant de fois qu'il y a de spatulas anyway. Tu sais, mais c'est.
Mais le fait de découvrir une nouvelle chose, ça motive à continuer d'avancer et tout ça. Ah, wow! Vraiment, chapeau à ton garçon qui ouais. A des idées au point de surprendre son père malgré que tu as fait l'aventure plusieurs fois et tout ça.
Ouais.
Puis, c'est super.
C'est beau de le voir là-dedans.
Moi, il y a deux ans et demi, fait que c'est plus que je prends un cheval et on joue ensemble. Mais,
ça part de même, Joe.
Ben oui, je raconte déjà des histoires, puis ma femme me regarde et elle dit tu vas ben trop. Ah, j'aime ça. Puis lui, il est comme ouais. Fait que tant mieux, c'est le fun. Ouais. Les enfants, ça. Bon, tout le monde l'a dit, que ça, c'est cliché un peu de dire que ça a un esprit tellement ouvert et tout ça, mais à travers un monde fantastique en plus. Super. Puis en plus, toi, tu dois triper parce qu'il joue à D&D. Ouais.
Quelque chose qui pourrait intéresser les gens aussi, c'est que j'ai utilisé la règle du sidekick, ouais. du Essential Skit dans mon aventure, parce que je me suis dit, pour que ça soit plus facile, si jamais il est bloqué quelque part, ça serait plus fun que ça vienne de quelqu'un qui est dans son équipe, d'un personnage, que je lui donne la réponse comme,
ouais.
comme aide de jeu. Je veux qu'il sente qu'il est comme... Il peut... Tu sais, il y a quelqu'un qui est avec lui, qui l'accompagne à travers son aventure. Comme ça, il n'est jamais tout seul.
Est-ce que c'est toi qui le contrôle? C'est toi qui le joue? Okay.
C'est moi, c'est moi le sidekick. Un de mes
amis aussi m'a demandé la même question, puis je lui ai dit... il dit, là, est-ce que je montre à Lucie? Je dis non. Je pense que ça va être plus le fun pour un jeune d'avoir une interaction... avec un personnage, mettons, joué par toi, son papa, ou que si c'est lui qui contrôle, mais tu sais, vas-tu vraiment être capable de se mettre aux deux places? Ça va être... Parce que là, il s'interagit, puisqu'il se promène, mettons, il s'en va à telle quête avec son personnage, avec son sidekick, comme tu dis. Mm. Puis à ce moment-là, il l'amène, puis ils peuvent jaser, puis toi, tu es là pour jaser, pour répondre. Fait que je pense que c'est la meilleure approche là, en bas âge.
Oui, tu sais, il me dit son sidekick, il l'a appelé Ficelle, puis c'est une halfling magicienne.
Wow.
Fait que difficile, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle en pense, tu sais. Puis là, je fais, je donne un petit hint, mais tu sais, je joue. Mais pour vrai, essayez ça avec vos enfants. Puis même, le sidekick, c'est parfait pour même les plus grands, là, qui connaissent pas le jeu.
Oui, 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 absolument.
Tu sais, genre, ils sentent que tu les prends par la main, tu sais, puis qu'il y a... Souvent, les gens ont
quelqu'un pour les aider et qui ne sont pas seuls au monde.
Oui, il y a des gens ont de la pression, des fois, de commencer à jouer. Je me suis rendu compte, là, tu sais, j'en parle. Beaucoup de monde, depuis que je fais Coup Critique, puis j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui me posent des questions, qui sont intrigués par le jeu, mais ils ne savent pas trop comment commencer.
Ça peut être évident, là, tu sais, quand même, là, autant que les règles sont simplistes d'un sens, mais il y a quand même un gros livre, puis tu dis, ah, tu sais, je vais arriver là, je ne connais personne. Donc, ça, c'est une bonne manière de commencer. Quelqu'un DM expérimenté ou un joueur expérimenté veut commencer à DM, prend l'option sidekick, fait une aventure pour son ami qui est là, ça l'introduit, puis après ça, il arrive dans un groupe d'inconnus.
Ouais. Mais je pense que c'est le mythe aussi autour de D&D. Là. C'est l'idée des livres, comme tu dis, c'est l'idée des règles, c'est l'idée de qu'il faut que je connaisse toute l'histoire, puis c'est quoi un elfe, puis c'est quoi telle affaire. Puis,
au bout du compte, c'est... il y a la règle zéro qui fait que en tant que joueur, tu fais jouer, mais que le DM, le maître de jeu, peut juste changer les choses, il n'y a pas de problème, c'est d'avoir du plaisir. Ouais. Fait que pourquoi couper le plaisir à quelqu'un juste parce qu'il ne sait pas les règles, tout ça. Ça a été mon expérience, je l'ai déjà raconté, là, il y a une quinzaine d'années, ouais. C'était pas. J'avais pas aimé mon expérience parce qu'il y a beaucoup de règles, puis qu'on me demandait de tout savoir tout de suite, puis j'étais un peu overwhelmed, là, je ne sais pas comment dire ça en français. C'était trop pour moi. Mais moi, en tant que DM, quand j'ai introduit, on a fait un D&D avec l'introduction, puis tout ça. Faites-en pas pour rien. Je vais vous guider à quoi rouler parce qu'il faut que l'idée ait un impact un peu aléatoire, mais. Si tu ne veux pas parler, tu ne peux pas faire grand-chose, tu veux juste écouter l'histoire puis vivre le moment, c'est bien correct aussi, puis c'est ça le but.
Oui. Je pense qu'on pourrait terminer ça comme ça. C'est toujours un plaisir de parler avec toi, Giovanni. Je suis vraiment content.
C'était du jasage aujourd'hui, j'ai aimé ça, ça faisait du bien. On jasait toutes sortes de choses, c'est super le fun. Ouais. Moi, j'ai encore plein d'affaires à jaser, si tu veux en faire d'autres. Là.
Ben, on va en faire d'autres. Mais j'aimerais aux gens de commenter comment vous avez trouvé l'épisode. Est-ce que vous aimez plus cette formule-là? Est-ce que vous voulez qu'on continue dans cette optique-là?
On censure nos faces parce que ça n'a pas d'allure.
On n'est pas si pire que ça.
Ben...
Mais merci beaucoup. Quelques petites mentions. Donc, Coup Critique, ben, c'est un site web, donc coupcritique.ca. Puis j'essaie de mettre de plus en plus de contenu, d'articles, de nouvelles, en fait. On a de plus en plus d'informations venant des producteurs de jeux, des trucs, donc on essaie d'être à jour là-dessus. On a les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. On est pas mal sur tout. Coup Critique CA, normalement, vous pouvez nous trouver. N'hésitez pas à engager avec notre belle communauté qu'on a, tous les gens, de donner vos commentaires sur ce qu'on fait comme contenu.
Les choses que vous voulez parler...
Oui, exactement. Aussi, petite mention, lorsqu'on crée un article sur un produit, par exemple, puis qu'il y a des liens qui mènent vers Amazon, pour que ce soit complètement transparent, c'est un lien affilié. Peut-être que vous connaissez le système, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est que le lien, en fait, on a un compte avec Amazon. Puis, ils vont nous donner une ristourne si vous faites un achat. Ça ne vous coûte pas plus cher à vous. C'est simplement que Amazon sait que vous êtes arrivé de notre site, puis nous remercie en donnant une petite contribution monétaire sur votre facture générale que vous faites. Nous, ce que ça fait, ben c'est des quelques sous, mais ça permet de payer l'hébergement de notre podcast, l'hébergement du site web, tout le temps qu'on met là-dedans, tout ça. Donc, merci beaucoup si vous passez par ces liens-là. On a un Patreon qui existe. Donc, si jamais vous voulez vous joindre à l'équipe de Patreon de Coup Critique, il y aura des liens pour ça. Sinon, tous nos trucs sont disponibles sur pas mal toutes les plateformes, que ce soit iTunes, Google, Spotify, YouTube maintenant. On veut créer plus de vidéos, plus de contenu, plus de plein d'affaires. On veut en faire vraiment beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. On cherche toujours à vous faire plaisir et à partager notre passion avec vous parce qu'on voit que vous êtes passionnés comme nous. Sur ce, je vous souhaite de jouer. Soyez prudents. Restez safe. Hein? Restez vigilants.
Jouez par Internet. T'sais.
Jouez en ligne.
Pour l'instant,
jouez avec votre famille chez vous. On n'est pas encore rendu à jouer en vrai avec tout le monde.
S'il
faut,
puis vous savez pas juste comment ça marche, envoyez-nous un message, on va vous l'expliquer, ça va nous faire plaisir. Si c'est ça que ça prend pour que vous puissiez jouer, on va vous expliquer comment Zoom fonctionne, comment Discord fonctionne, peu importe la plateforme que vous l'utilisez.
Oui, donc merci beaucoup Giovanni.
Merci à
tout le monde. Bye bye. Là. Bonne journée.